sont bien accompagnés, c'est tellement mieux.
Il pleut et mouille, c'est la fête à la grenouille. Quand il pleuvra plus, ce sera la fête à la...
Tortue!
Tortue!
Wouh!
Hein? On serait-tu bien en gang? Toute la gang! Vous êtes dans votre voiture, là, puis vous écoutez Boulevard. Je vous salue, soit dit en passant. Mon nom, c'est Marceau. Son nom, à elle, c'est Audrey Pinchot. On serait-tu bien à Cancun?
Imagine!
Toute la gang, c'est
tout
la plage.
Tout ensemble. Un petit verre, un petit piña colada.
Un petit peu de musique. On jase, on s'amuse, on joue au volleyball. On fait sortir nos abdominaux.
On joue à Marco Polo abdominaux. T'as ça, toi?
Non!
Moi, je ne les ai pas trouvés encore.
J'ai essayé. Je sais pas si c'était toi que je racontais ça, mais j'ai essayé pour mon gala de lutte là, que j'avais à faire il y a de ça plusieurs mois.
Oui.
J'ai essayé d'avoir un six-pack puis j'ai jamais été capable.
Mais là, c'est dur de l'alimentation plus en plus. Aussi.
Ouais,
là. Tu t'alimentes pas bien, toi.
Oui, mais ce qui me fait capoter, c'est qu'il y a des gars aux Olympiques là, qui sont pas capables d'avoir de six-pack, puis il y a des gars au gym qui ont des huit-packs.
Ouais.
Explique-moi. Tu sais, moi, un athlète olympique, là, c'est probablement l'athlète le plus complet qui soit. Il travaille pas nécessairement son 40 heures.
Mm-hmm.
Donc, nécessairement, il s'entraîne énormément en dehors de ça. Il s'entraîne pour être le meilleur de sa discipline. Son alimentation est surveillée. Tous les exercices qu'il doit faire pour être... Ça va, ta Coors Light, un matin?
On a entendu le pshh!
Toute son alimentation est surveillée, ses entraînements, tout. Puis il s'entraîne comme 2-3 fois par jour.
Ouais.
Mais le gars au gym que je crois, est-ce qu'il a un 8-pack? Là,
t'es sur le temps, hein?
Lui, il travaille son 40 heures par semaine.
Ouais.
Puis après ça, il s'en va s'entraîner le soir.
Ouais.
Puis là, il y a un 8-pack.
Ben là, t'as souvent ces gens-là...
C'est quoi le secret?
Ben, les opioïdes.
S'il y a des vendeurs de stéroïdes, contactez-moi. 418-971-1021, je pense qu'Audrey a trouvé ma solution. Mais j'ai essayé d'avoir un six-pack, j'ai pas été capable.
Faut pas que tu te compares.
J'ai perdu beaucoup de poids, par exemple. Je m'entraînais fort, j'ai perdu énormément de graisse, mais j'ai jamais été capable d'avoir mon fameux six-pack.
Il y a quelque chose là-dedans, par exemple, qui est triste quand tu y penses.
De?
T'as voulu te mettre en forme de façon excessive et rapide.
Oui,
parce que tu serais en public à faire un gala.
Non, c'était pas pour l'apparence. C'est parce que j'affrontais un gars qui pèse 240 livres puis qui mesurait 6 et 3.
Tu voulais être en shape.
Je voulais être capable de le suivre. Je sais pas si t'as vu les images.
Zéro pour l'apparence, Yannick!
Je voulais pas de bedaine.
Les yeux bas,
je voulais pas de bedaine, c'est sûr.
On le ferait tout, c'est normal.
Mais je voulais être en forme. Puis, tu sais, il me faisait faire des affaires dans les airs où des fois, je fallait que je force peut-être un peu plus. Fait que je devais m'entraîner en conséquence si je voulais démontrer le sérieux de ce combat-là.
Ouais.
Mais j'ai jamais été capable d'avoir un suspect.
Moi non plus. La seule affaire que j'ai déjà eue au moment où je m'entraînais de façon vraiment excessive, là, c'est une petite apparence des deux premiers en haut. Là.
C'est les deux premiers en haut?
Oui, les deux premiers en haut, là, j'avais une petite... Là, j'ai recouvre, j'ai protège. Un coup que je les ai vus, je voulais pas les perdre, tu comprends? Fait que là, j'ai mis une petite couche par-dessus pour être sûr qu'ils restent bien en place.
Ouais.
Mais c'est les seuls que j'ai déjà vus. J'ai jamais été capable, sinon
moi,
non
mon
plus.
Petit con à la maison, tu sais, je disais que son père essayait d'avoir un six-pack, puis j'étais pas capable. Mais lui, petit con, il y en a un naturel.
Oui, mais non, mais c'est sûr, fait voyons, là, ça se compare pas.
Il
là.
Se lève le matin, puis bien souvent, la fin de semaine, je me lève avant eux. Fait que là, je suis dans le salon en bas, puis là, il se lève, il est en bobette, puis là, il met son six-pack, puis il me dit même pas salut. Là. Il s'en va devant moi.
Il se pavane.
Il fait son six-pack, parce qu'il est mince. Puis après ça, il s'en va chercher son verre de lait. C'est juste pour m'écœurer. Juste pour m'écœurer.
Attends, il va vieillir puis il va le perdre.
Fait que bref, le secret, c'est toujours les stéroïdes, Audrey?
Ben là, c'est pas ce qu'on vous conseille. Hein? Moi, je te dis juste que souvent, ces gens-là au gym que tu croises puis que t'admires, ben, il y a soit énormément
je les admire pas tant, là,
d'efforts.
Mais je me demande comment ils font, eux, comparativement aux athlètes olympiques. Mais je les admire pas.
Mais ouais, c'est ça. Ces gens-là, je sais pas. On est dans le jugement total, là. Mais les gens qui réussissent à avoir du petit six-pack puis des gros muscles super rapidement, là, généralement, il y a un petit helper, là.
Un petit helper?
Il y a un petit helper.
Ouais.
Parce que ça se fait pas, ça prend du temps là, pour être vraiment en forme, en shape, que tes muscles soient définis, que tu sois tonifié, ça prend du temps.
Tu sais, il y a quelqu'un que je connais à qui j'avais parlé de ça, puis lui, c'est un six-pack naturel, puis il s'entraîne pas. Puis il disait que c'est 80% l'alimentation, 20% l'activité physique. Fait qu'il fait de la marche, après souper, il va marcher et tout ça, mais il bouffe pas des trucs intéressants, puis il prend pas d'alcool.
Mm.
Fait que tu sais, il bouffe juste la salade. La salade, c'est bon pour les lapins, ça, là. mais tu sais, il bouffe juste la salade, puis il boit de l'eau en masse, puis ça a pas de l'air le fun, sa vie. Il prend du yogourt grec, là, 0% de gras. Pis,
dégueulasse.
Ouais, puis il se donne pas le droit à prendre une petite bière une fois de temps en temps.
Ça, c'est excessif.
Ouais.
Tu sais, avoir une alimentation méditerranéenne, basée sur les aliments non transformés, moi, ça, je saisis. Parce que tu peux faire plein d'affaires vraiment à top avec des aliments non transformés. Tu peux cuisiner à peu près n'importe quoi. Là. Fait que ça, moi, je saisis quelqu'un qui est plus strict à ce niveau-là puis qui veut donner des bons aliments à son corps. Mais te priver tout le temps, c'est tellement bon du chocolat. Ouais. Une petite bière de temps en temps, c'est juste de
un jour par semaine où tu peux tricher, ça doit être le fun, tu sais.
Oui, tu vois, j'ai été longtemps accroché à ça, le fameux cheat day. En tout cas, pour moi, personnellement, je me suis rendu compte que c'était plus malsain qu'autre chose. Je vivais pour cette journée-là dans la semaine. Puis m'a dit que quand elle arrivait, Yann, il n'y avait pas de fond. Mais pas de fond au point d'être comme plus bain tellement que je mangeais parce que cheat day, c'est pas ça non plus. Fait que je préfère me permettre, mettons, un petit morceau de chocolat par jour, hein,
ouais,
qui éloigne le docteur pour toujours.
Mais toi, t'es une bébête à sucre.
Épouvantable.
Dès qu'il y a quelque chose qui traîne, tes yeux s'en vont direct dessus.
Mais j'aime
chercher
la bouffe. J'ai toujours été une foodie, je veux dire.
Mais tu compenses, tu vas t'entraîner.
Ben, je m'entraîne juste pour ça. Et si tu savais, si j'étais pas bébête à sucre, probablement que je m'entraînerais pas autant.
Ouais, moi aussi. Tu sais, il y a peut-être un peu d'apparence, comme tu disais tantôt, là, moi, avoir les épaules tombantes, puis la tête par en avant, puis. T'sais, non, ça me tenterait pas, surtout à l'âge que j'ai. Là, faut pas, c'est pas le temps de laisser tomber. Il faut justement continuer pour être capable de se rendre le plus loin possible. Mais je me priverai jamais de manger. Ou bien de prendre une petite bière de temps
La vie
en temps.
Est trop courte, les chums. Ah, là.
T'sais, la game de hockey est finie. On est avec les chums dans la chambre. Puis tout le monde sort une petite bière. Ou bien il y en a un qui va pas. Il va chercher ça au bord en haut. Il amène ça dans la chambre. Puis là, toi, t'es le seul qui prend pas ta petite bière.
C'est franchement.
Arrête de la misère. Ben, ça fait partie du social aussi. Là. Hey, je parlais avec mon chum Mike, Michael Girard. Si vous le connaissez pas, Michael Girard, c'est propriétaire de 8 restaurants à Québec. C'est le gars des fromageries Victoria. C'est le gars de Pat Smoke Meat. C'est le gars de Allô Mon Coco aussi. Puis hier, ça. Moi, j'aime beaucoup les humains. Là. J'aime beaucoup les gens qui sont très humains.
Okay? Il y a Allô Mon Coco, lui.
Oui, c'est à lui aussi.
C'est mon restaurant préféré de déjeuner.
C'est vrai?
Oui.
Il est aux Galeries de la Capitale. La
Parnouche.
Oui. Et peut-être qu'on ira au déjeuner là à un moment donné, mais tu sais, je m'entoure beaucoup de gens qui sont très, très, très humains. Mm-hmm. J'ai toujours eu tendance à me rapprocher plus de ces gens-là que d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus en surface. Là. Puis Mike est arrivé hier, puis je le sentais troublé. Tu sais, j'ai jasé un peu avec, je l'ai eu en entrevue avec Pascal, puis on parlait un peu de course automobile, on parlait de restauration, mais lui, ce qu'il avait fessé dans sa journée, c'était les jeunes qui ne pouvaient pas nécessairement aller travailler hier. Ou les gens qui gagnent du salaire minimum jusqu'à 20$, ils ne pouvaient pas. Puis il disait, il n'y a jamais personne qui pense à eux. Il n'y a jamais personne qui pense à ces gens-là. La ville est paralysée. Puis là, on comprend que les mécaniciens, ils veulent de meilleures conditions salariales. Mais il y a quelque chose qui m'a fâché hier, parce qu'en parlant avec Mike, c'est pour ça que je t'en parle. Moi, je savais, parce qu'on m'avait informé, que sur la convention collective, l'autobus ne peut pas partir s'il n'y a pas un mécanicien qui fait le tour, qui dit « OK, l'autobus peut partir ». Sauf que ce tour-là, il vaut 48 heures. Fait que l'autobus peut rouler 48 heures sans rencontrer un mécanicien. Je suis quelqu'un qui se borde pas ben avec les règlements dans la vie, là, surtout quand je trouve que ça n'a pas de bon sens. On s'entend, si c'était pour aller sur la Lune, il faut qu'un mécanicien regarde ça à grandeur. Si c'était pour voler dans les airs à 30 000 pieds, il faut qu'un mécanicien, avant le décollage, avec le pilote, parce que c'est la tâche aussi du pilote, tout comme le chauffeur d'autobus, de faire le tour de l'aéronef qui va voler à 30 000 pieds dans les airs, puis s'assurer que tout soit correct. Un autobus, l'autobus doit être vérifié par un mécanicien, puis ça, c'est valide 48 heures. Ce qui fait en sorte que, hier, tous les chauffeurs d'autobus auraient pu travailler, puis on n'aurait pas eu besoin de faire vérifier l'autobus. Est-ce que tu sais pourquoi les chauffeurs d'autobus ne sont pas partis? Parce que les chauffeurs d'autobus, en passant, ils n'ont pas été payés hier.
Ils ne sont pas tous contents, là. Je veux juste le dire, tombez pas ces chauffeurs. Là.
Exact. Puis quand vous allez retourner dans l'autobus, engueulez pas le chauffeur, il n'y a rien à voir avec ça. Sauf, ça serait peut-être le temps d'écrire au syndicat des chauffeurs puis d'y traiter toutes sortes de noms. Je vous dis ça de même. Parce que c'est le syndicat des chauffeurs qui aurait refusé de partir hier matin, alors que techniquement, il aurait pu le faire. Et aujourd'hui aussi, si on calcule le fameux 48 heures du mécanicien.
Ouais, c'est vraiment juste les moyens de pression. Là.
Fait que c'est par solidarité syndicale que le syndicat des chauffeurs a dit « C'est beau, on part pas demain. » Fait que ça a mis dans la marde des jeunes puis des gens qui sont moins bien nantis, qui dépendent du RTC. Ouais. Ils ont perdu leur journée de travail. Il y a des parents qui ont dû toute la journée...
Et pareil aujourd'hui en passant.
Charroyer leurs enfants. Fait que les mécaniciens veulent de meilleures conditions salariales, puis c'est bien correct, là, le Québec, c'est de même, là. Puis le syndicat, c'est de même, puis je respecte ça. Mais là, ça pourrit la vie des gens, et là, par solidarité syndicale, on a décidé que les autobus partaient pas hier matin, alors qu'ils auraient pu partir, puis on a décidé qu'ils partaient pas aujourd'hui, alors que ce matin, ils auraient pu partir encore. Mmh. J'espère que pour les chauffeurs, vous allez écrire à votre syndicat pour les traiter de toutes sortes de noms en disant que c'est des maudits pas bons. Parce que ça en est des maudits pas bons. Parce qu'ils pensent pas à ces jeunes-là. Puis hier, Mike, il m'a fait beaucoup réfléchir, puis j'aime ça quand vous m'écrivez puis vous me donnez des renseignements, surtout si vous êtes directement là, dans boîte à pain au RTC. Je trouve ça hallucinant, Audrey, qu'on ait pris ces décisions-là. Pensez aux pauvres mondes qui ont besoin de ce service-là.
Bien, au plancher des vaches, c'est comme dans n'importe quoi. Il y a Kevin qui nous écrit « Un chauffeur de van s'inspecte son truck, son trailer. Oui. » Alors oui, c'est un peu niaiseux que ce ne soit pas les chauffeurs qui inspectent leur autobus. Il y a Nicolas qui nous écrit « Pas vrai, van est bonne pour max 48 heures, mais dès que le véhicule sort du garage, elle tombe à 24 heures. »
Donc, hier, Max... Ou Nicolas, tiens, c'est Nicolas qui nous a écrit. Ouais. Hier, Nicolas, l'autobus aurait pu partir?
Au moins hier.
Ouais.
Mais tu sais, c'est le moyen de pression. Ils ne sont pas partis pour cette raison-là.
Le moyen de pression, c'est les mécaniciens. C'est le syndicat des chauffeurs, par solidarité syndicale, qui ont décidé de ne pas prendre les autobus hier. Je trouve ça ignoble.
Ce que je trouve triste, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de chauffeurs du RTC dans nos auditeurs. Puis... c'est ce qu'on se faisait écrire, tu sais. La majorité qui sont comme nous autres, là, écoute, on n'est pas payés, on est juste désolés, puis ils sont bien conscients des impacts que ça peut avoir, là.
Ils seraient partis hier, tu sais. Puis moi, vous avez le droit d'augmenter vous avez le droit de demander des augmentations de salaire, mais pensez au monde.
Mais
pensez
je te pose
aux
la
jeunes,
question.
Pensez aux parents.
Parce que chaque fois qu'on parle de grève, peu importe, là, que ce soit Post-Canada dans le temps des fêtes, que ce soit le RTC, n'importe qui, là, tu comprends, là, qui. Ça passe toujours les moyens de pression par le fait d'enrager la population parce que ça fait jaser à ce moment-là, les médias en parlent. Puis bon, c'est ça le moyen de pression. Comment on peut faire autrement? Comment ces gens-là peuvent faire autrement pour se faire entendre si c'est pas de cette façon-là? Puis je te dis pas que je suis d'accord en loin de là, mais chaque fois qu'on en parle, je me fais toujours la réflexion. Bien, c'est quoi les autres options?
Fuck le chien dans l'administration. Pour les chauffeurs, mettons que là, c'est pas le cas, mais mettons que les chauffeurs sont en moyen de pression, faites plus payer personne qui rentre dans l'autobus. On s'en fout. Faites plus payer personne.
Mais je pense que ça, ils n'ont pas le droit, là.
Ah, ils n'ont pas le droit? Fait qu'ils ont le droit de faire chier la population, mais ils n'ont pas le droit de pas faire payer. Voyons, ça n'a pas de bon sens.
Mais c'est plate à dire, mais c'est littéralement ça, là.
À l'hôpital, pour ce qui est des infirmières qui sont en moyen de pression, fuck l'administration. Mettez les dossiers de côté, puis une fois que les choses seront réglées, vous rentrez les dossiers dans l'ordinateur, tout simplement. Ça serait si simple.
C'est drôle, les paramédics ont fait ça pendant leurs moyens de pression. Ouais, il y a un an, deux ans, ils sont retournés au papier. Au lieu de faire ça de façon informatique pour que ce soit plus rapide, pour aider, ils sont retournés au papier. Mais c'est plate à dire, tu vois, c'était une bonne façon de faire sans nécessairement impacter directement la population. Mais dans ce cas-là, Yann, pense-y, retourner au papier. Là, moi, j'étais dans une ambulance ce jour-là, là, puis on m'expliquait que ça prend trois fois plus de temps à remplir le foutu papier. Fait qu'au final, oui, ça impacte quand même la population, tu sais. Mais ils faisaient ça pour justement qu'à l'interne, ça ralentisse le groupe.
Mais si t'as une crise de cœur à cinq minutes de ton ambulance, tu vas laisser tes papiers de côté, tu vas y aller, tu sais. Tu risqueras pas la vie des gens.
Idéalement, c'est ce que tu devrais faire.
Fait que bref, voilà, c'est les renseignements que j'ai eus dans les dernières heures. Je trouve ça juste triste là, de la part du syndicat des chauffeurs qui ont dit « ben nous autres, on va être solidaires avec le syndicat des mécaniciens puis on sortira pas ». Plein d'autres choses, peut-être plus positives à vous jaser. T'as-tu un acteur fétiche, toi?
Une actrice fétiche,
ouais. Quelqu'un que t'as suivi depuis ta jeunesse, là. Elle a commencé à faire des films ou il a commencé à faire des films, puis tu l'as suivi toute ta vie, malgré que tu es encore jeune?
Ben, Nina Dobrev en fait partie.
Nina Dobrev.
Oui, Nina Dobrev. Elle a fait plusieurs choses. Elle a été dans Degrassi, Nouvelle Génération. Puis après ça, tu vois, moi, je l'ai suivie dans Vampire Diaries.
Nina Dobrev.
Dobrev, oui. Ouais, je te l'ai mis à l'anglophone, là, je suis l'exotique. Elle a fait Love Hard il y a trois ans. À chaque fois qu'elle fait un film, j'ai le réflexe de vouloir le regarder parce qu'elle est dedans.
OK. Moi, tu vois, j'ai vu qu'elle a joué dans Triple X, là. Je l'ai jamais vu passer.
Reactivated. Mais... c'est une affaire d'action, là. Imaginez-vous pas.
Triple X?
Ben oui, il me semble.
Ouais, c'était avec Vin Diesel.
Ouais, c'est ça.
Ouais, il y en a deux, trois, là. Le dernier étant avec un rapper qui est vraiment poche dans le film, là. Mais Triple X, quand ça a commencé, j'avais aimé ça. C'était comme une nouvelle... c'est comme un genre de mélange de Mission Impossible puis de James Bond.
OK.
Mais plus pour les gens. Tu sais, le gars, il faisait de la planche à neige.
OK,
le,
cool,
Vin Diesel faisait du skate, faisait du motocross. Fait que j'avais vraiment trippé sur les premiers Triple X. Mais tu vois, cette actrice-là, Nina Dobrev, je la suis pas. Moi, ça a toujours été deux acteurs, OK? Puis il y en a un qui a pratiquement voulu copier sa vie, sauf la petite partie où il est rentré dans l'église de la Scientologie, là. Tom Cruise.
Oh mon Dieu, oui.
Je l'ai connu dans Top Gun. Il fait plein de films, hein, tu sais. Dans Top Gun, bon, c'est un pilote d'avion, il conduit une moto. Fait que quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu ressembler à ce gars-là.
Puis là, lui, il fait ses cascades lui-même, hein?
Oui, exact. Puis là, Mission Impossible est sorti, le dernier. Là.
Fait que là, tu capotes.
Ça va être... là, je capote. On va écouter la bande-annonce ensemble. Mais il m'a accompagné toute ma vie. Puis je sais pas, vous autres, les auditeurs, 418-971-1021, c'est qui vos acteurs et actrices qui vous ont accompagné toute votre vie? Puis avez-vous essayé des fois de copier un peu le concept? T'sais, moi, Top Gun, c'est le film de ma jeunesse. C'est le film qui a décidé qu'un jour, j'allais être capable de piloter un avion. Bon, j'ai jamais réussi
à... OK, tu veux dire quelque chose qui t'a inspiré, mettons, ouais. Là, qui t'a dit...
Hey, après ça, la scène où il est à moto, puis il essaie d'aller aussi vite que l'avion qui est en train de décoller, ce bout-là a tellement rentré dans ma mémoire étant enfant que je me suis dit, je veux vivre ce moment-là. Aller à l'aéroport avec mon bike.
Mais voyons.
Puis à 16 ans, je suis allé chercher mes licences de moto.
Hé, hey, à ce point-là, ben il y a une chose qui m'est venue en tête. C'est une série, par exemple, c'est pas un film. C'est Grey's Anatomy. Moi, je voulais devenir, à cause de l'actrice qui joue une chirurgienne cardiaque, je voulais devenir chirurgienne. Puis c'est ce que je voulais faire. Puis là, ben, j'ai tout raté, là. Je fais de la radio. Mais je voulais vraiment faire ça à cause de cette actrice-là puis de cette série-là.
Ouais.
J'ai eu un bras paralysé, ce qui n'a pas aidé aussi la chose, là. Mais ouais, ça, c'est la chose, mettons, qui m'a influencé à cause d'une série. Sinon, moi, c'est pas, mettons, des affaires aussi... tangibles que toi. Moi, c'est plus des comportements, des fois. Il y a des séries que je vais regarder ou des films. Je vais prendre Suits en exemple parce que tu l'as vu, OK?
Ouais.
L'assurance de Harvey, la façon d'être de Donna, tu comprends?
Harvey Specter.
Ouais. C'est comme des traits de caractère, des fois, que genre je vais admirer certains personnages, puis là, je me crains, puis je suis comme, mais si je vais être de même aussi, là, tu sais. Fait que c'est plus dans ce sens-là que je vais vouloir adopter puis copier par rapport aux films puis aux séries.
Ça nous influençait de façon positive. Tu sais, quand je vous dis, moi, Tom Cruise, l'acteur, le gars Tom Cruise, avant... C'est pas mon préféré, là. C'est un fucké, là. T'sais, il voit même plus sa fille. Il est dans l'église de la Scientologie.
Mais ce qu'il fait dans les films, ça te fait
capoter. Mais dans les films, qu'il fasse ses cascades, tout ça, les films qu'il a fait, j'ai adoré. Puis l'autre que j'ai suivi longtemps, c'est Sylvester Stallone avec Rocky. Tu sais, Rocky 1, là. Le gars qui est un underdog, à qui personne n'a confiance, tombe en amour avec Adrienne. Elle donne la force de continuer, puis il réussit tant bien que mal à faire des combats de boxe pour finalement, dans l'autre épisode, devenir champion du monde de boxe. Ça, c'est la persévérance.
Okay, toi, c'est sain quand même, tes affaires. Moi, c'est malsain. Il y a beaucoup de choses malsaines.
Ouais, toi, ça vire tout le temps les histoires de fesses, là, mais moi, j'ai jamais embarqué là-dedans.
Quoi?
Fait que moi, tu sais, Rocky, c'était vraiment ça. C'est le gars qui devait travailler tout le temps plus fort que les autres, qui partait de crissement loin pour finalement arriver à ses fins.
Tu t'identifiais-tu, c'est ça? Tu cherchais-tu un...
Ben, c'est des modèles que tu cherches, bien entendu, là. Tu sais, je pense que oui. Mais je pense qu'on fait tout ça étant jeune. C'est comme toi, ton actrice, j'imagine que c'était un modèle pour toi, là.
Ben... un modèle, je sais pas. J'étais jalouse des gars qu'il y avait dans ces séries, là.
OK, t'étais jalouse.
Non, mais sérieux.
Wow!
Quoi t'avais? Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, qu'il y a du mimétisme qui se fait quand tu regardes des films puis des séries. T'sais, tu mets ton cerveau sur ta tablette, tu rentres dans un autre univers, puis tu t'identifies à des personnages. Puis moi, je me rends compte que c'est ça. C'est vraiment des traits de caractère, des fois, que je veux ramener de ces séries-là. 88-971-1021, il y en a-tu, vous autres?
Ça a commencé à rentrer. Lis les textos, je t'entends. En train d'essayer de loader mon nouveau
Reed,
film Mission Impossible, bilan final. Je te fais écouter ça dans les prochaines secondes. Riley
Reed. On nous parle de Tom Cruise, Johnny Depp.
Johnny Depp.
Il dit
oui.
C'est poche parce qu'il a viré bizarre un peu, mais ça en fait partie.
Mais
Jason
ils sont tous
Statham.
Bizarres. Tu sais, Leonardo DiCaprio, il est un peu bizarre. Comment il s'appelle? Je pense que le seul qui est pas bizarre, mais tout le monde le considère comme bizarre alors qu'il est vraiment naturel, le gars, c'est Keanu Reeves.
Oui, c'est drôle que tu parles de lui parce que j'aimerais ça être capable de me battre avec un crayon comme il fait dans ses films.
Ouais, mais le gars, c'est le gars que tu peux croiser à New York qui est en train de prendre un café au Starbucks.
Guy là, next door.
Qui est, assis à qui est assis à table, puis il est seul. C'est le gars qui peut être à la sortie d'un café, puis il est assis à terre en train de boire son café. C'est le gars que tu peux croiser. Ça m'est jamais arrivé de le croiser, là. Mais c'est le gars que tu peux croiser dans le métro à New York.
Je me suis fait prendre. C'est qui, Riley Reid?
Non.
Moi, j'ai lu ça en me disant, je connais pas cette actrice.
C'est une actrice porno?
C'est une actrice porno. Merci à Google. Hein. Vous êtes vraiment cons. Chuck Norris, qu'on nous dit.
Chuck Norris aussi. Moi, j'étais un peu arrivé sur la fin de Chuck Norris, fait que j'ai jamais vraiment embarqué. En plus, il était roux. Je sais pas.
Oh, franchement, les roux n'ont pas d'armes, hein, c'est ça qu'ils disent. Arnold Schwarzenegger ressort beaucoup.
Arnold Schwarzenegger, ça a été plus tard, quand j'ai vu son documentaire. Parce que Arnold Schwarzenegger, pour moi, c'est un acteur de films d'action que j'aimais bien, mais c'était une grosse bine. Mm. Puis quand j'ai vu le documentaire, je me suis rendu compte que c'était un des hommes les plus exceptionnels qu'on a eu la chance de voir au cinéma. Le gars, c'est un immigré. Il est parti de son pays. C'est un gars qui s'entraînait beaucoup. Il est arrivé à New York. Il a commencé à travailler dans l'immobilier. Il est devenu hyper riche en immobilier. Avec cet argent-là, il s'entraînait. Il est devenu Monsieur Univers. Puis là, il s'est dit, je veux faire des films, moi, dans la vie. C'est devenu un des acteurs les plus payés d'Hollywood. Puis par la suite, il a dit, je veux être un politicien. Mais il pouvait pas être président des États-Unis. Il est pas né aux États-Unis. Fait qu'il est devenu gouverneur de la Californie. Dans le documentaire, tu t'aperçois à quel point, des fois, tu sais, ce que tu peux penser de quelqu'un versus ce qu'il est vraiment... Tu peux pogner ton deux minutes.
Marge,
ce gars-là a réussi à devenir multimillionnaire en immobilier. Il a réussi à devenir Monsieur Univers. Puis il a réussi à devenir gouverneur aux États-Unis.
Oh, oui.
Je veux dire, il n'y a pas personne au cinéma là, dans les 10, 15, 20, 30 dernières années qui a réussi à faire ce que Arnold Schwarzenegger a fait dans sa vie complète. Là.
On nous parle aussi de Angelina Jolie.
Oui.
Qui a été beaucoup. Moi, ça, c'est vrai. Moi, tu vois, c'est drôle parce que ça, c'est pas pour l'actrice en soi, mais j'ai envie de dire la femme. Moi, ça me fascine. Il y a quelques mois, elle a fait le film Maria. Elle incarnait Maria Callas, qui est une chanteuse d'opéra.
Oui.
Puis.
Qui est une icône.
Oui, elle a appris à chanter l'opéra pour ce film-là. Chanter l'opéra. T'es-tu capable, toi, d'apprendre un matin à chanter l'opéra? Apprends à chanter d'abord, là. C'est déjà compliqué, là.
C'est toujours. Moi, le son, c'est bizarre. Je sais pas si toi, c'est ça. Mais c'est toujours mieux dans ma douche.
Ah, ben oui.
Ou dans mon char.
Ah, mais moi, je suis une superstar dans ma salle de bain, là.
Mais à partir du moment où faut que je chante quelque part, on dirait que la voix est pas pareille.
C'est épouvantable, hein? Tout d'un coup, il y a une distorsion, ça marche pas.
Fait que si un jour tu me bois de voice, là, je vais amener ma douche.
Le rideau. Fait que moi, ça, je la trouve assez incroyable parce que, tu sais, t'as des acteurs qui réussissent leur carrière, qui sont toujours à peu près dans les mêmes rôles, ça fonctionne, ça va bien, mais des acteurs qui sont capables de jouer à peu près n'importe quoi, puis qui apprennent, veux pas, des affaires pour certains rôles. Tu sais, t'en as qui apprennent à se battre, t'en as qui doivent prendre du poids, perdre du poids, se créer une shape, se faire pousser les cheveux, qui doivent en venir à une incarnation assez poussée d'un personnage. J'ai toujours trouvé ça franchement impressionnant.
Je pense qu'il y a juste Liam Neeson qui change pas. Il y a toujours la même
gueule. Lui, c'est pas le cas qui est tout le temps dans les films d'action. Il a toujours le même rôle. Il faut toujours qu'il sauve quelqu'un qui s'est fait kidnapper. Genre.
Tous ses films sont bons.
Ouais,
sur Netflix, là, je tape Liam Neeson, puis je regarde toutes ses affaires. C'est tout le temps le même rôle. Puis là, il va jouer dans L'Agent fait la farce. Fait que j'ai très hâte. Mais on écoute ensemble la bande-annonce là, de Mission Impossible qui est sortie dans nos salles de cinéma. Bilan final, c'est son dernier film, Mission Impossible. J'ai un petit deuil. Je ne l'ai pas encore
écouté. T'as des frissons, je te regarde. Il est fou énervé.
J'ai des petits bouts durs. Pas existant.
Nos existences ne sont pas définies par un acte en particulier. Nos existences sont la somme de nos choix. Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez fait, a conduit à cette situation. Quand le besoin de certitude est impératif, quand les chances de réussite sont jugées impossibles, on lui confie la mission, si toutefois il l'accepte. Pour chaque vie que tu as tenté de sauver, tu en as risqué des millions d'autres.
À présent, le sort de chaque être humain sur Terre est entre tes mains. C'est le scénario habituel. Vous refusez de sacrifier ceux qui vous sont chers. On a toujours été du bon côté, vieux frère. Je n'ai aucun regret. Tu devrais pas en avoir non plus. Il faut que tu te fies à moi. Une toute dernière fois.
J'ai des frissons.
Ben là.
Audrey.
Je suis quasiment excité moi aussi. T'sais.
Audrey, il faut que tu te fies à moi. Une dernière fois.
Fait que tous tes plans sont faits. Tu vas regarder ce film-là définitivement.
Ben, j'ai un de mes chums qui a tout le temps accès à des films. Là. Je sais pas de quelle façon il fait ça, mais il est comme chez eux sur son ordinateur.
Sûrement
là.
De façon très légale.
Lui, il donne un genre de 9 sur 10. Mais il avait mis Mission Impossible Rogue. Là. Il l'avait mis aussi à 9 sur 10. Fait qu'il dit que c'est à peu près de la même force que Rogue.
OK.
Fait que ça, c'est sûr que ça sera pas plate, là.
Ben là, assurément que les fans vont triper, ça, j'ai aucun doute. De toute manière, c'est le dernier.
Ouais. Puis on revient dans l'émission Impossible du passé. Tu sais, il y a certaines scènes qu'on voit du passé, de ce que je comprends. Puis il y a une scène complètement hallucinante. Puis c'est ça que j'aime de Tom Cruise, c'est qu'il risque sa vie à chaque fois. Puis les réalisateurs capotent à chaque fois parce qu'ils disent « OK, mais si on le perd, le film est comme fini. »
Honnêtement, il n'y a rien de plus fascinant que d'aller regarder sur YouTube ses cascades.
Là, il est attaché sur l'avion. Puis l'avion fait des tonneaux, puis lui, il est sur l'aile.
C'est débile.
Pense-y 30 secondes. T'sais, oui, il y a un wire qu'on verra pas là, de sûreté. Là.
Oui, mais lui, dis-toi que s'il décède dans une de ces cascades-là, il va décéder heureux.
Ah ouais, c'est ça.
Il trippe, il va à fond. Faut pas être sain d'esprit, par exemple, on s'entend. Là.
Quelqu'un qui dit maudit que ça sonne faux en français. Quelqu'un qui dit « Ah non, pas Yves Corbeil dans sa doublure. » Ouais, c'est vrai que ça y ressemble. Hein? C'est-tu lui? Steve Corbin qui fait la doublure de Tom Cruise pour de vrai?
Je penserais pas, là.
Ah, tabarouette. C'est pas grave. Quelqu'un qui me dit Jim Carrey, qui l'a suivi toute sa vie comme acteur.
The Rock.
The Rock aussi. Ouais, moi aussi, j'ai eu un petit kick The Rock là, comme acteur de cinéma, mais c'est pas un grand acteur, là.
Ah, ben là, t'apprécies sa présence pareil, là.
Oui, mais tu sais, il a trop fait des films cucu. Puis ce qui fait
moi,
en sorte
La Fée
que
des
j'ai
Dents,
décroché.
C'est un film que j'ai vraiment aimé.
C'est ça. Ce qui fait en sorte que j'ai décroché. Tu sais, Sylvester Stallone, il y a une série actuellement là, que tu peux regarder où c'est comme un chef de mafia. Sérieux, elle est juste hallucinante. Puis Sylvester Stallone approche quoi, 80 ans? Mm. C'est fou, là. Marie, ce qui dit Angelina Jolie. Ouais.
Elle revient beaucoup. Ben, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Là. Tu vois, dans les derniers textos, Johnny Depp est revenu encore une fois.
Tom Hardy. Joe qui dit Tom Hardy. C'est vrai que c'est un bon acteur, Tom Hardy. Je l'aime bien aussi.
Joue dans quoi, lui?
Tom Hardy, beaucoup de films d'action.
Ah, les Venom.
Venom
les
aussi.
Legend,
ouais. Venom, j'ai pas tant trippé. Là, mais
Mad
c'est
Max.
Un,
ouais, c'est Peaky bon Blinders. Acteur.
Quelqu'un qui dit Brad Pitt. Pascal, on sait que c'est toi qui se cache sous le prénom de Fred.
Grande fan, hein?
Ouais, Bruce Willis, c'est... ouais, t'as raison. Bruce Willis fait partie aussi. Mettons que j'ai mon top 3, là. J'avais Tom Cruise, Bruce Willis, puis Arnold Schwarzenegger. Non, Sylvester Stallone, ouais. Tom Cruise, Bruce Willis, puis Arnold Schwarzenegger. Voyons, Sylvester Stallone.
Tom Hanks ressort encore une fois. Moi, tu vois, je me rends compte à quel point j'en ai pas tant que ça, là. J'ai pas trippé sur des films ou des séries à ce point-là. Tu sais, je t'écoute, là, puis je vous lis, là, puis c'est peut-être pas les gens que j'ai le plus idolâtré dans ma vie, mettons. Les acteurs.
Non, t'as pas ça. Quelqu'un qui me dit Gérard Butler. La mère de mes enfants a sorti avec moi, puis elle m'a fait 2 enfants parce qu'elle disait que je ressemblais. Et pourtant, quand on regarde les 2 photos, là, une à côté de l'autre, je suis à l'opposé de ce gars-là. Là.
Attends, je vais regarder là, s'il te ressemble.
Ben là, il a vieilli, par exemple. Là, mais quand
mais non, mais je comprends ce que. Jeune, je comprends ce qu'elle voulait dire. Là.
Ouais. Fait que c'est grâce à lui si j'ai fait 2 enfants.
Prends ça comme un compliment quand même. Là. C'est un bel homme.
C'est vrai? T'es gentil.
C'est un beau papa. Là.
Merci, Audrey.
Peut-être pas ce point-là non plus, Yann.
Tu peux m'appeler Gérard.
OK.
Sans problème. Hey, aujourd'hui, c'est Mademoiselle V qui vient faire son tour dans l'open mic à chaque vendredi. J'ai hâte de jaser avec elle. Là, c'est un sujet un peu plus, quoi, philosophique?
Oui, bien, j'ai le goût de dire ça. Elle appelle ça le carré noir, les quatre irritants de base, les quatre ennemis du couple. Qu'est-ce qui est la responsabilité, mettons, de la majorité des conflits là, dans une relation?
Les quatre ennemis du couple, le cellulaire, la télé... Les enfants.
Ben!
Il en manque-tu?
T'en as un.
J'en ai un. Donc, cellulaire, télé, enfants.
Les enfants, l'éducation des enfants.
Puis Brad Pitt!
Peut-être, qui sait. Hey, ça là.
Quoi?
Y a-tu, mettons, on parle d'acteur, d'actrice.
T'as-tu un bug?
Ben, non, mais c'est parce. Y a-tu une personne avec qui vous aimeriez un free pass, mettons?
Non.
Zéro. Toi, il n'y a aucune actrice.
Non.
Aucun acteur. Ben, acteur, j'imagine que non, là.
Non.
Avec qui, potentiellement, tu te dirais, si j'ai la chance.
Fourré, là, non. Mais si j'ai la chance de rencontrer, exemple, Monica Bellucci qui vient à Québec, puis elle me dit, hey, je donnerai une entrevue, mettons, puis j'ai la chance de l'avoir à Boulevard demain matin. Là.
Toi, elle te veut dans son lit, tu dis non.
Je serais même pas capable d'y parler.
Yannick Marceau.
Sérieux? Je serais pas capable d'y parler.
Elle
sauf
te prend
en
par
nom.
La main puis elle t'amène dans sa chambre puis tu dis non.
Il n'y en est pas question.
Franchement.
Je suis l'homme que d'une seule femme.
Mon cul. Bullshit. <Ouais. rire> Franchement.
Ce qui est weird, c'est qu'elle se met le doigt sur l'œil, l'index sur l'œil, puis elle fait mon cul.
Ben, je le dis mon œil, mais c'était pas assez fort pour tout ce que je ressentais okay. Par rapport à tes propos.
C'est ça. Non, mais Monica Bellucci, elle vient à Québec. C'est sûr et certain que je veux lui donner la main puis je veux la rencontrer. Parce que c'est une des plus belles femmes sur la Terre.
Moi, ce serait Yann Somerhalder.
Si elle me dit, Yann, cet soir, ça se passe avec Monica, c'est non.
Pourquoi? Parce que t'aurais peur de pas être assez performant?
Je saurais pas quoi y dire.
Mais t'as pas besoin de parler, Yann. Faut juste que tu frenches puis... et ce qui s'ensuit.
Je suis pas un animal. Moi, j'ai des émotions.
Yannick Marceau.
Comment, c'est quoi, toi, le tien, un free pass là, pour tromper petit chum?
Je te dirais, Yann Somerhalder, c'est un acteur. Ben là, il est rendu papa. Là, c'est
Holder,
un beau papa quand même.
A-L-D-E-R.
Exactement. Un foncé aux yeux bleus. Il a les cheveux comme noirs, yeux bleus pétants. Un sourire à tout casser.
Okay. Il a pas les yeux bleus en passant.
Là. Il a les yeux bleus.
Non, non.
Ben oui, il a les yeux bleus.
C'est
je suis
lui,
désolé,
ça?
Là.
C'est lui?
Mais non, c'est pas lui. Voyons, pas en tout. Yann, I-A-N.
Ah, OK, c'est parce que lui, il l'écrit.
Somerhalder. Crée-moi que je sais qu'il a les yeux bleus, mon Yann. Non, puis quand il était jeune, là, il t'avait tout qu'un regard. Puis il a joué dans...
Il ressemble deux gouttes d'eau à un acteur qui ne joue plus vraiment, là, l'acteur de Youngblood.
Lequel?
Youngblood. C'est un film que j'avais écouté quand j'étais jeune. Youngblood.
86, ça, Youngblood?
Ouais. Il ressemble à Rob Lowe quand il était jeune. En fait, c'est deux gouttes d'eau, Rob Lowe,
quand
il était jeune.
Qui jouait Dean. Je sais pas, mais moi, écoute, son regard, ça, il y a de quoi ce gars-là, là, c'est épouvantable.
Ben, regarde.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oh,
c'est lui, c'est ton petit chum. Là.
Non, ben écoute, à la base, moi...
Mais je regardais petit chum, il ressemble pas pantoute à Yann Somerhalder.
Ben, il a les yeux bleus puis les cheveux noirs. Il y a déjà un début. Non, mais tu sais... Non, mais je pense que c'est aussi le charisme de cet homme-là en général. Mais il y a un petit quelque chose. Moi, là, ça fait partie... c'est sûr que...
mais Yann
Somerhalder
et
Chris,
Holder, là,
c'est quoi leur nom de famille, les deux frères? Là?
Yann Somerhalder, là, je regarde la face. Là, c'est-tu le genre... C'est plus le genre de gars à aller magasiner avec toi qu'aller...
Ah non.
Non?
Non. Mais là, tu regardes des photos de lui quand il était jeune, là, je te le donne. Mais non, c'est pas le genre de gars à t'amener magasiner.
Non?
Non. Je penserais pas.
Est-ce que vous choisissez le même maquillage ensemble?
Non plus, vraiment pas. Chris Hemsworth, c'est sûr que ça fait partie des hommes. Liam Hemsworth aussi, d'ailleurs. Là, son frère est tout aussi mignon. Là. Ça fait aussi partie des hommes que je pourrais, avec qui je pourrais lui prendre la main. T'sais.
Quelqu'un qui dit Zac Efron.
Au moins, encore à ce jour, moi, je trouve qu'il est rendu... Et là, c'est du gros jugement. Ce qu'on fait, c'est pas fin. Mais jeune, Zac Efron, effectivement, c'est un très bel homme aussi, ce gars-là. Mais là, je sais pas s'il s'est injecté des affaires, mais sa mâchoire a comme triplé. Fait que moi, il rentre plus vraiment dans mon top, là. Mettons qu'on jase, là.
Yann, si Monica Bellucci me dit ce soir, c'est ton soir, j'appelle ma blonde et je lui demande de mon exception. Faudra que tu fasses de même. C'est Bellucci. Ah ouais.
Mais là, on rêve, là, je veux dire.
Je suis pas capable de faire ça, je te l'ai dit.
C'est sûr, ça arriverait pas dans la vie, là. On s'entend, là.
Pensez.
Ben non, mais ça arriverait pas dans la vie, Yann. On va... Non, mais là, on va se dire les vraies affaires, là. Toi puis moi, on est assez...
Lettre.
C'est ça, on est bas, là, dans l'échelle à côté de ces gens-là, là.
On est les derniers à avoir pigé dans le sac à face.
Ben, à côté de ce monde-là, définitivement, hein? On n'est pas choyés, là.
Si on était des chiens pug, là, ils sauraient pas faire la différence entre le devant et le derrière.
Je me donne un peu plus de crédit que ça quand même.
Ça va, ta confiance en soi. Nick, copilote, oh, en là. Musique sur Boulevard, les nouvelles de Mathias. Ça s'en vient dans les prochaines secondes. Et après ça, on accueille avec grand plaisir Mademoiselle V. Ah, il se passe beaucoup de choses sur la route, les amis. Aujourd'hui, en temps réel, puis en fin de semaine, il y aura fermeture d'un des deux ponts.
Oui. En fait, il y a plusieurs fermetures à prévoir. Pont de Québec... Samedi, dimanche, il y a plusieurs heures aussi, fait que soyez à l'écoute. On va fermer la circulation ce soir à partir de minuit jusqu'à demain, donc samedi 24 mai, 18h. Et à partir de minuit, demain soir, jusqu'au 25 mai, 20h, ce sera fermé. On va faire carrément la construction d'un pont d'étagement temporaire là, pour la 175 au-dessus de la voie ferrée. Et la fermeture du boulevard Laurier aussi, de lundi prochain à mercredi prochain, juste que vous le sachiez. Là, ça, c'est de 19h à 5h30 le matin que ce sera fermé entre la route de l'église et l'échangeur autoroutier précisément.
Parfait. Sinon, sur la route actuellement, comment ça se passe?
Il y a quelques petits ralentissements à prévoir si vous êtes sur la capitale, direction ouest à la hauteur de Laurentienne. Je vous dirais que toujours direction ouest, là, il y a un petit ralentissement dans le coin de Lormière aussi, à la hauteur de Lormière. Le reste, ça roule quand même bien. Ça arrive sud, il y a peut-être quelques petits problèmes à la hauteur de Taniata sur la 20 ouest. Mais honnêtement, ça roule à cette heure-ci, quoi que ce soit. Vous n'hésitez pas au 97-102.
C'est 7 degrés sur Québec. Il pleut. Il va pleuvoir toute la journée et toute la soirée selon Environnement Canada, des rafales à 50 km/h à certains endroits. Minimum de 6, maximum de 9. Pour ce qui est de demain samedi, de la pluie intermittente avec un maximum de 8 en soirée. Même chose, minimum de plus 5 degrés. Et dimanche, le retour, le grand retour du soleil tant attendu. Alternance de soleil-nuages pour dimanche avec un maximum de 14. Et si je regarde pour ce qui est de la semaine prochaine, puis c'est là que c'est encourageant, là, à partir de lundi, on aura du 21, 23 pour mardi, 25 pour mercredi et jusqu'à maintenant, c'est plein soleil. Fait qu'on va bâtir sur le long terme.
Moi, oui, absolument. Ce serait le fun que ça soit la fin de semaine, par exemple, qu'on puisse en profiter.
Oui, mais la ville, switch, là. La météo décide pas c'est quand la fin de semaine ou pas. 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, ou encore vous avez des choses à nous dire. Ça fonctionne par texto. Mademoiselle V, comme à chaque vendredi, vient faire son tour pour nous parler de plein de sujets. Et aujourd'hui, c'est un sujet plus psychologique. On parle des ennemis du couple. Salut. Oh, j'ai allumé ton micro, voilà, salut!
Salut!
Content de te voir!
Ben moi aussi, je suis content de vous voir.
As-tu passé une belle semaine?
Ben oui, j'ai passé une belle semaine, et vous?
Oui!
Ça a été, je te dirais que c'est pas dans les plus belles semaines, il n'y a pas grand-chose dans l'actualité. J'ai l'impression qu'on parle toujours des mêmes maudites affaires. C'est comme
ouais.
le jour de la marmotte.
Oui. Moi, j'écoute pas bien l'actualité, pour être honnête. Là.
Non.
Ça me déprime.
Pour vrai de vrai?
Oui. Honnêtement, là, j'essaie de me tenir le minimum.
Tu vas-tu aller voter?
Ça m'affecte.
Tu vas-tu voter?
Ah, je ne me propose je ne me propose pas sur cette question.
Tu ne te prononces pas sur la présence de ton avocat?
On parle des quatre ennemis du couple. Tantôt, je niaisais Audrey, je sais pas si tu étais dans ta voiture puis tu nous as entendu. Moi, j'ai dit les quatre ennemis du couple, j'en avais trois, bien certains. Le premier étant le cellulaire. Le deuxième étant probablement la télé. Le troisième, on parle d'ennemis, bien entendu, les enfants. Puis la quatrième, je le cherchais. T'avais-tu une idée, Audrey?
Bien là, moi, c'est sûr que j'ai vu les réponses. Moi, je peux te parler d'ennemis du couple, je peux te parler de ménage. Là. Dans ma tête, le ménage...
Le ménage,
fait
oui!
...fait partie des ennemis numéro un
oui.
d'un couple.
Il y a tout le temps un qui est plus traîneux que l'autre.
Oui, ou qui n'a pas les mêmes priorités ou les mêmes... Tu sais, il y en a un que si c'est ramassé, c'est propre... Puis que l'autre, ben pour que ce soit propre, faut que tu nettoies.
Ouais.
Fait quoi? Le ménage, pour moi, revenait dans les premiers, vite comme ça.
Puis il y a des gens que je vais appeler mes enfants. Ma paire de boxers directement dans le centre de la chambre. Là.
Ah!
Puis toute la journée de samedi, il va aller plusieurs fois dans sa chambre, puis il pilera pas sur ses boxers, il va faire le tour. Fait que là, je dis, tu peux-tu ramasser tes boxers? Pourquoi tu les as pas ramassés un matin quand tu les as vus là? Il dit, je les ai pas vus. Il les a pas vus, mais il a fait le tour toute la journée.
Oui, ben regarde, ça, c'est... Ouais, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cette situation-là. L'autre affaire, je sais pas vous autres, 971-102, mais le copilotage en voiture, mon Dieu, je pourrais donner un coup de volant dans le champ tellement que mon chum me tape ses nerfs.
Se faire dire comment conduire, c'est une des pires choses que tu peux faire. Ouais.
Là, c'est parce que t'arrêtes pas de braquer puis d'avancer, puis là, tu roules pas assez vite. Dépasse-le!
Mais pourquoi être la chauffeur quand il est là? Voyons donc!
Tu parles d'une question.
C'est risqué sa vie.
Ça coûte
pour
moins
rien,
cher l'assurance, c'est de même. C'est juste une question d'assurance.
C'est pour ça.
Tu veux pas qu'il chauffe ton char?
Ben, il peut chauffer mon char, mais ça veut pas dire qu'il faut qu'il chauffe à tout coup. Moi, j'ai mal de cœur en char. J'aime avoir le contrôle de mon volant. C'est quoi, après?
Ouais, moi aussi, je suis comme toi. Quand je conduis, j'ai pas le mal des transports, mais si je conduis pas, je vomis par la fenêtre.
Moi, il n'y a pas grand place où j'exerce ma domination de la planète, là. Mais mon char, il n'y a personne qui y conduit.
Oui.
À part le mécanicien quand il faut qu'il fasse quelque chose absolument.
Non, mais ça me dérange pas qu'il conduise, sauf que des fois, moi aussi, j'ai le droit de conduire. Là,
ah ouais.
Pas être tout le temps assis à droite, là.
Ouais. Mais malheureusement, non, la conduite n'en fait pas partie. En fait, c'est un petit peu plus général que ça. C'est ce qui cause les conflits au couple. Ce pourquoi on va en général consulter, que ce soit un sexologue, un sexothérapeute, un psychologue, thérapeute de couple. On en a quatre, en fait, le sexe étant le premier, hein, surtout en ce qui a trait à la divergence en termes de fréquence de libido.
Ouais. Sexe.
Ouais.
OK.
Ouais.
C'est vrai qu'il y en a qui en ont besoin plus que d'autres.
C'est la première raison de consultation, donc c'est un gros, gros irritant. Ça vient généralement un petit peu avec le temps, puis on en a quand même parlé pas mal de libido, puis pour ceux qui auraient besoin, là, entre autres, de revoir certaines notions, allez regarder le podcast, hein? Sextape,
c'est vrai.
Épisode 3 et 4 en particulier, qui parle beaucoup de comment faire pour raviver la flamme et éviter les problèmes sexuels.
Mais c'est ça, tu sais, quand t'as des gens qui viennent te voir, Mademoiselle V, puis ils disent on va virer ça à l'envers. Je suis une fille, puis je veux du sexe à tous les jours, puis mon chum, il veut juste une fois par deux semaines.
Mm-hmm.
Mais tu fais pour que le chemin se fasse des deux côtés?
C'est difficile parce que c'est une question de compromis tout le temps. Ça ne va jamais être 6 fois par jour, puis ça ne va jamais être 1 fois ou 3 ans. T'sais, il va falloir se rejoindre quelque part dans le milieu. Puis c'est un peu comme une médiation qu'on fait, autrement dit. On ramène les expectations de chacun un petit peu au centre, puis on leur donne des trucs pour que ça se fasse tout simplement parce que des fois, les écarts sont énormes. On peut avoir une femme qui, par exemple, se contenterait d'une fois par mois, puis un homme qui pourrait faire l'amour 3 à 4 fois par semaine. C'est un portrait assez typique. Donc, se rejoindre dans le milieu, ça va être quelque chose comme une fois par semaine ou deux qu'on va aller chercher, qu'on va essayer.
Je suis un grand curieux. Est-ce que tu pousses le gars à faire des réflexions peut-être un peu plus psychologiques sur sa façon d'avoir du sexe?
Oui.
Tu sais, le sexe n'est pas obligatoire, là.
Non.
T'es pas obligé de donner du sexe à quelqu'un si t'en as pas envie. Jamais, jamais, jamais. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est rare, j'ai refusé, par exemple. Mais t'es pas obligé de donner du sexe à quelqu'un si t'en as pas envie.
Non.
Tu sais, peut-être, je le dis souvent, chauffer le poêle, là.
Oui,
que le
gars ça.
Puisse un peu être attrayant, là.
Oui, il faut absolument qu'il apprenne à connaître sa conjointe sur une autre base. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, il faut chauffer le poids, il faut préparer. Pour une femme, c'est extrêmement psychologique. C'est dans la tête que ça se passe.
Ouais.
Puis si elle n'est pas bien dans la tête, elle n'est pas bien dans ses culottes, je le dis tout le temps. Donc, c'est vraiment d'apprendre à connaître sa conjointe puis d'apprendre à communiquer les uns avec les autres aussi parce qu'elle aussi, il faut qu'elle dise quand il y a quelque chose qui ne marche pas. T'sais, c'est un travail des deux, si on veut, puis c'est un travail de longue haleine. T'sais, ça ne se règle pas en criant lapin, mais c'est un outil. La consultation, si vous avez des problèmes en termes de libido, que ce soit en fréquence
ou en
ouverture aussi. T'sais, des fois, il y en a qui trouvent que leur conjoint il est juste plate. Puis, tu sais, il n'est pas curieux sexuellement.
Ce qui est difficile, souvent, j'ai l'impression dans les couples, c'est que ça se dit mal à quelqu'un, tu sais. Et ça se prend pas bien non plus. Fait que j'ai comme l'impression que aussitôt que tu abordes ça, faut que tu acceptes que nécessairement, tu vas créer une distance supplémentaire.
Effectivement, temporairement. Le but étant, après ça, de se rapprocher pour aller chercher le gap qu'on vient de créer.
Parce que ça fait mal, puis j'ai l'impression, puis là, peut-être que je généralise, à toi de me le dire, mais j'ai l'impression que ça fait plus mal aux gars qu'aux filles, se sentir pas bon au niveau sexuel, comme si ça venait avec un aspect très mâle, là, je sais pas.
Oui, bien, pour les hommes, la prestation sexuelle, c'est aussi une façon pour eux de dire « je t'aime hein? ». C'est aussi une façon pour eux de faire valoir leur amour, de faire valoir leur leur amour envers leur partenaire, tout simplement. Puis c'est nécessaire, l'intimité est nécessaire pour eux. Mm. Puis c'est comme ça. Tu sais, moi, je dis souvent, pense dans ta tête, oui, il veut te faire l'amour tout le temps, mais pour lui, c'est une façon de te dire « je t'aime ». Mais tu as raison, il faut réapprendre à l'homme des fois à faire l'amour. Parce que faire l'amour ne veut pas juste dire « je rentre faire un tour puis je ressors
ouais. ».
Hein? Ce n'est pas une question de pénétration en tout temps.
Mais je sais pas
faut
si
réapprendre tout ça.
Je sais pas si c'était avec toi que je jasais de ça la semaine dernière, mais tu sais, moi, j'aimais bien les émissions du Doc Mayou dans le temps.
Oui, on en a parlé, oui.
Quand il parlait de sexe, je trouvais ça drôle. Puis des fois, j'écoute des podcasts, puis je me surprends à écouter les réponses des gars, des filles au travers de ça. Mais tu sais, juste de prendre une douche avant de se coucher. Là.
Mm-hmm. Ouais, la base.
Ça peut faire la différence. Oui. Quand tu sens du péteux, là, puis elle sent que tu sens du péteux, elle ira pas là.
Non, tout à fait. C'est ça, c'est un gros irritant. Là,
mais pourquoi on est en 2025 et on est obligé, les spécialistes, en fait, sont obligés d'expliquer ça aux gars?
Mais je pense que c'est le confort. Je pense que quand tu es dans une... Là, je vais parler pour une relation à long terme, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, t'as juste du monde qui devienne confortable puis qui se disent, bon, on est tellement bien ensemble que c'est pas une soirée sans douche qui va faire en sorte qu'elle va partir en courant, tu sais.
C'est que tu prends l'autre pour acquis, en fait. Il est déjà là. Il ira pas nulle part. Tu comprends? Mm. Il fait déjà partie de ma relation. Il est bien installé. C'est pas le fait que je sens de l'arrêt à soir qui va changer quelque chose. Il va pas me quitter demain matin pour ça. Tu sais, je me laverai demain. Et, fait que t'as raison, c'est une notion de confort. C'est une fausse notion de confort parce que ce que ça va amener, c'est des irritants incroyables de l'autre côté puis une baisse éventuelle de tout intérêt envers la sexualité. Puis c'est ça qui amène des tensions énormes, si on veut.
T'sais. Les autres choses que je recueillais comme information, c'est que y a des gars... Puis ça se peut qu'il y a des filles aussi comme ça, là, mais ce que je retiens des fois, c'est plus de l'autre côté. Il y a des gars qui crissent à rien dans la maison, qui vaquent à leurs occupations, qui sont pas là de la journée, qui s'occupent pas du déjeuner, qui s'occupent pas du souper, qui font même pas la vaisselle. Ils laissent tout ça, madame.
Oui, on va en parler tantôt.
Puis il y a des couples qui s'entendent là-dessus, puis tu sais, mais elle, à la fin de la journée, est brûlée. Là.
Oui.
Elle a-tu le goût de te faire l'amour, tu penses?
Non.
Fait que, de participer des fois aux activités familiales pour être capable d'y donner peut-être une tâche moins lourde, puis qu'elle constate que t'es un partenaire idéal, puis qu'à la fin de la soirée, elle te dise « Ah, ben crème, on était gentils l'un envers l'autre ce soir, peut-être qu'on pourrait faire l'amour. »
Les initiatives.
Mais c'est tellement naturel de penser à ça. Je reviens pas qu'il y a des gens qui ne pensent pas à ça.
Ouais.
Ben, je pense que c'est une question de... Moi, ce que j'ai souvent entendu, c'est... Un gars, mettons, qui va travailler bien fort dans sa journée, lui, ici, de son bord, il va avoir le goût de se reposer le soir, fait qu'il ne videra pas la vaisselle parce que, hey, j'ai travaillé toute la journée, donne-moi un break,
j'ai besoin de me reposer. Elle aussi a travaillé toute la journée.
Absolument, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que souvent, ça devient une espèce de, j'ai travaillé plus que toi, ou j'ai fait. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a comme une genre de compétition qui se crée de qui mérite le plus de repos, là, puis qui doit faire la tâche pour ce soir. Là.
En fait, c'est qu'il y a des tâches qui sonnent automatiquement masculines et féminines dans notre société depuis des milliers et des milliers d'années.
T'sais. Encore en 2025.
Mais oui, passer une tondeuse, on va mettre ça sur le dos de l'homme, puis faire
la vaisselle.
Parce que
vous voulez pas le faire.
Oui, peut-être, vrai, là, mais. Je sais pas.
Et c'est le fun de passer à tondeuse.
Ouais.
J'ai jamais passé à tondeuse de ma vie, en fait. J'ai pas eu grand gazon dans ma vie.
Moi, il y a eu beaucoup de filles que j'ai eues dans ma vie qui m'ont dit, moi, là, les tâches, c'est 50-50. Puis oui, je vais faire le gazon. Oui, je vais faire la neige. Et tabarouette, chérie, tu irais-tu déblayer mon char?
Ouais. T'irais-tu gazer mon char?
Fait que là, si je voulais commencer à chauffer le poêle, ben j'allais déblayer le char. J'allais déneiger derrière du véhicule.
T'es pas un tata.
Je sortais son char de l'entrée. Puis là, je donnais un petit bec, puis dans l'espoir de... C'est ça que c'est ce soir, ça se passe.
Oui, puis c'est un peu une mauvaise façon de le voir aussi, dans le sens où c'est correct de vouloir chauffer le poêle, mais peut-être pas en faisant des choses domestiques. Parce que là, ce qui arrive, c'est que tu vas te mettre à faire la vaisselle, le pliage, puis là, tu vas te dire « Oh, je vais avoir quelque chose en retour ». Tu comprends? Fait que quand
tu fais des associations.
C'est ça, tu fais des associations. Fait que quand, c'est pas aider la personne, tu cohabites avec elle. Fait que t'as comme pas vraiment le choix de plier la moitié du linge. Puis d'espérer quelque chose en retour, c'est comme si ta blonde, chaque fois qu'elle vidait la vaisselle, elle disait « Tu me donnes-tu 20$, je m'en vais chez Sephora. » Tu vas finir par dire non, Tu comprends? Elle n'exige rien en retour pour les tâches ménagères, donc c'est un peu la même chose de ton côté. Mais c'est sûr que ça enlève des choses sur sa liste, donc tu as plus de chances de tomber dans le moment où elle va dire « OK, j'ai le goût ».
Ouais. C'est sûr que tu ne peux jamais peut-être des fois en faire autant qu'elle, mais des fois, il faut que tu essaies de compenser d'une autre façon.
Les mères, c'est aussi vrai en passant. Il y a des gars qui sont pas mal plus à la maison que la femme. Là,
tout à fait. Aujourd'hui, c'est le cas, oui. Mais les initiatives jouent pour beaucoup. Prenez des initiatives, même si vous vous trompez. C'est pas grave si vous l'avez plié à l'envers, le linge, là, puis si les bobettes sont
mais
pas tout à fait propres.
Moi, j'avais déjà... Idéalement, elle serait propre, là, sinon on mettait dans la laveuse. Là. Mais j'avais déjà entendu de prendre le pouls de l'énergie de son partenaire.
Oui.
Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant, du genre, « Hey, t'es un combien sur 10 aujourd'hui?
Mm-hmm. Comment tu files? »
Moi, je suis à peu près à 5 sur 10. Pas besoin de justification. « Hey, mon Dieu, moi, je file comme un 9. Écoute, je vais faire le spray plus enfant ce soir, là. Repose-toi. »
C'est vrai.
Hey,
c'est
une bonne façon ça me pose cette question-là, mais j'ai tout le temps l'impression que je suis en fin de vie, là.
Toi, tu serais toujours un 3, genre?
Je suis toujours moins 4, ma chérie.
Non, mais tu sais, des fois, t'as un peu plus d'énergie une journée, puis d'autres, tu traînes ta vie.
Mais j'arrive chez nous à 19h, 19h30 le soir. Je pars du matin, je pars le matin à 6h, 6h30, j'arrive ici. Quand j'arrive à la maison, ça me pose des questions sur mon niveau d'énergie ce soir.
T'es obligé de mentir.
Je vais vraiment être déçu, là. Non, mais je mens pas, mais bien souvent, là, c'est à 0-1, là.
Mais c'est parce que ça fait comme partie... Je trouve que ça fait partie, ce petit truc-là, de considérer l'autre.
Puis des fois, c'est pas conséquent. Je suis à 0-1 quand j'arrive à la maison, puis une demi-heure plus tard, je pars pour jouer au hockey, puis j'arrive brûlé au hockey. Puis je reviens brûlé à la maison. On est beaucoup comme ça, là. Mm-hmm. Tu sais, qui sont... Tu sais, qui dépensent beaucoup d'énergie, puis le soir, ben, tu veux juste la pile.
Effectivement. Ouais.
Je pense que c'est peut-être un pace de motivation générale aussi, pas juste d'énergie, parce que tout le monde l'est fatigué, là. Mais juste de dire, aujourd'hui, je suis capable d'en prendre un peu plus, tu sais, d'être capable de te pacer à deux, d'être capable de, je sais pas, de considérer l'autre aussi dans les journées plus... et c'est bien poussé, mais j'avais quand même trouvé ça pas pire, pour vrai, comme truc.
Ouais. Mais chose certaine...
Mais, c'est ça. Mais moi, je suis une infirmière, fait que je comprends le message quand j'arrive à la maison, puis il y a une poche de soluté, là, pour moi.
OK, fait que tu joues au docteur à tous les soirs, c'est le fun.
Chacun ses plaisirs. Hein?
C'est ça. Fait que pour revenir peut-être un petit peu en arrière pour le sexe, là, ça va être aussi de penser que notre relation, elle ne va pas être pareille au début jusqu'à la fin. Tu sais, des fois, il y en a qui pensent qu'ils vont avoir les papillons encore après 4-5 ans.
C'est tough, ça, en passant, hein?
Oui.
Ce bout-là, là, tu sais, ils disent, c'est quoi, il me semble, t'as comme ça va par bloc de 3 ans. Mais ce bout-là où tu réalises que t'es plus les petits papillons constants, puis que là, c'est un amour qui devient, je veux pas dire un choix, parce que moi, j'ai besoin de ressentir cet amour-là dans la vie, là. Mm-hmm. Mais que c'est un amour qui se transforme, qui est plus aussi, je sais pas, c'est plus aussi magique, parce que là, tu connais l'autre dans ses défauts, dans ses qualités.
C'est plus solide.
Oui, c'est ça, l'amour se transforme, puis devient effectivement plus solide avec le temps, mais... Quand ça devient un peu un choix de travailler au quotidien, ça pète une bulle, là.
Effectivement, parce que ce qu'on nous vend comme idée, c'est que tomber en amour, c'est facile. Ouais. Hein? On
puis
chante
avec
des oiseaux, puis on danse, puis dans tout nu d'un champ.
Jusqu'à la fin de ta vie. Là,
c'est ça. Mais en réalité, c'est pas de même pantoute que ça se passe. Puis tu sais, il y a plusieurs phases dans la vie d'un couple. Il y a exactement 4 phases. Si je vous les fais rapidement, là, bon, il y a la phase lune de miel, donc, quand les papillons arrivent. C'est là qu'on idéalise la relation, la séduction est là, on communique à mort, il y a plein de démonstrations d'affection. On est sur un nuage, là. Puis, à un moment donné, ben là, c'est les défauts deviennent plus évidents, là, tu sais. Avant, tu te dis, bon, ça pue quand il pète, mais il y a un beau sourire, là. Mais là, le sourire commence à être plus assez, tu sais. Fait que t'as, après ça, t'as la différenciation, mon Dieu, j'ai de la misère.
Hey, c'est vendredi.
T'as
c'est comme
écrit,
une
hein?
confrontation à la réalité puis aux imperfections de l'autre, tu sais. Tu vois que là, ben finalement, il est pas si parfait qu'il avait l'air, tu sais. C'est là que les premiers conflits embarquent.
Puis le gazon devient plus vert chez le voisin du coup.
Exactement.
Mademoiselle V, je parlais avec un de mes chums ici à la station, puis lui, il a rencontré quelqu'un dans les dernières semaines.
Félicitations.
Puis là, il me disait à quel point il y avait des papillons, puis ça allait super bien. Puis là, je dis, attention, là, tu peux tomber en amour avec les premières semaines.
Oui.
Tu sais, tomber en amour avec les premières semaines, là, ce qui fait en sorte que quand ça va commencer justement à moins bien aller, tu vas te dire « Ah, mais j'aimerais ça retrouver le feeling des premières semaines. »
Oui,
il y en a beaucoup qui sont en amour puis qui butinent à cause de ça constamment.
Oui, Absolument. C'est un feeling, un sentiment d'adrénaline et de bien-être incroyable qu'on veut absolument. C'est les hormones. C'est les hormones du plaisir qui nous attaquent.
Exact. Dès que la relation commence à baisser un peu,
mm-hmm.
ils se disent « Non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux les 3-4 premières semaines avec elle.
Mm. » Exact. Ouais,
c'est une claque d'en face, je trouve.
Ouais.
C'est, honnêtement, là, quand tu arrives à un moment dans la relation où ça commence à descendre de plus en plus, puis que là, il faut que tu te recraignes pour te rappeler pourquoi tu aimes cette personne-là, puis que tu sais que tu réalises pourquoi tu l'as choisi. Là.
Ouais.
Souvent, c'est là, on dirait que les couples brisent d'ailleurs. Là. Ils ont l'impression que c'est la déchéance, puis que tout d'un coup, ça va plus bien. Là.
On appelle ça la phase d'exploration. T'sais, c'est là où tu prends un certain détachement, puis tu as un peu plus d'indépendance. Tu as de l'équilibre.
Ouais.
Tu commences à moins t'isoler, les papillons sont moins là, mais l'amour devient plus solide, si on veut. Puis la dernière phase, on l'appelle l'intimité. C'est là où vous êtes en sécurité, vous vous connaissez par cœur. Le lien est hyper puissant. Vous pouvez passer à travers n'importe quoi. Puis votre piège, ben, là, ça devient la routine, malheureusement.
Oui, puis c'est parce que c'est dur de sortir de cette étape-là quand t'es rendu là. T'sais, les gens qui sont plus bien, mettons, là, t'es moins à l'aise, on dirait, de te séparer quand ça fait 12, 13, 14 ans, 20 ans que t'es ensemble parce que t'es tellement installé, tu sais.
Oui,
c'est tough de recommencer avec quelqu'un, là.
Ouais.
Puis t'as toujours l'impression que ce que vous avez vécu au début va pouvoir revenir, mais en réalité, c'est pas
rapidement,
le cas.
Val, je vais pas te couper, mais...
Non, pas de souci.
Accident 20 Est après Lagueux, c'est rentré sur le texto, là. Ça crée certains ralentissements, d'ailleurs, en ce moment, sur les routes. Il y a des problèmes aussi sur Henri IV Sud, à la hauteur de Charest. Quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à 88-971-102.
Mademoiselle V, on va couper la chronique en deux parce que je veux te garder le plus longtemps possible à l'émission. Fait qu'on va revenir dans les prochaines secondes. Si vous avez des questions à poser à Mademoiselle V, faites-le par texto au 88-971-102. 88-971-102. On revient.
Le volume à la planche, c'est un show musical.
I didn't know it until now.
J'ai aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.
Open mic avec Marceau et Audrey Pinchot.
11h13 minutes, on a le plaisir de passer toute l'émission comme à chaque vendredi en compagnie de Mademoiselle V qui est toujours là, toujours présente, toujours souriante, toujours prête.
Yeah.
Le fun. On t'aime, on t'apprécie.
Oh, merci.
Là, t'as ramené des pinottes salées, de ce que je comprends, Audrey.
Des cachous sel et vinaigre.
Ouais.
En passant, elle est rendue 15 ans.
Oui.
Vous la contacterez si jamais.
C'est comme la mafieuse des cachous sel et vinaigre.
Ben non, mais je veux dire, les compagnies ont arrêté d'en produire. Maintenant, il faut que quelqu'un prenne le relais. Là. C'est addictif, cette affaire-là.
Elle a repris le marché.
Absolument.
Ouais. Ça goûte bon,
Costco
en plus.
Costco va envoyer quelqu'un me pâter deux jambes.
Aujourd'hui, on parle des quatre ennemis du couple.
Ouais.
Quatre ennemis du couple. On a commencé par le sexe, qui est un des ennemis du couple, parfois. Là, maintenant, c'est l'éducation des enfants.
Ils vont dire
chicanes, comment éduquer notre enfant.
Oui, puis là, ils vont dire qu'est-ce qu'elle a, elle, de parler d'éducation des enfants, qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans. Petite ouverture sur une page de vie. J'ai élevé 5 enfants. Hein? J'ai 2 enfants moi-même, mais j'ai été 8 ans avec un homme qui avait 3 enfants, 3 garçons de 3, 4 et 5 ans.
Oh, des mêmes âges qu'ils étaient à l'époque.
Les miens avaient 4 et 5 ans. Donc, pendant 8 ans, j'ai élevé de 3, 4 et 5 jusqu'à 10, 12. Donc, je m'y connais pas pire. Fait que je pense pouvoir donner une couple de conseils à quelques personnes qui en auraient besoin. Et toi, Marceau, es-tu plus bon cop, bad cop?
Ça dépend. Je te dirais que j'ai 2 rôles. Du côté de mes enfants, à moi, c'est bon cop, bad cop.
T'es le papa cool?
Non, mais j'ai les deux.
Ah, OK.
J'ai les deux, ce qui fait en sorte que je me ramasse la plupart du temps dans les problèmes. Puis du côté du côté beau-père, là, je suis plus bon cop. Là. Je dis pas vraiment un mot. Là.
Ouais.
Ouais.
Tu rends ton retrait. Je pense que c'est important.
Je rends mon retrait.
Tu prends ton retrait. Tu prends le retrait.
Tu te retires.
Quand, Colin?
Tu te mets de côté.
Je pense que je mange trop de cachous sur les vinaigres. J'allonge de fourche.
Quand tu arrives avec quelqu'un d'autre qui n'est pas, qui est pas la mère de tes enfants et tu n'es pas le père de ses enfants, tu dois t'ajuster. Tu
n'as pas le choix.
Puis pour moi, c'était évident que chez leur mère. Puis chez nous, ça allait être la même continuité. Donc, les heures de sommeil étaient les mêmes. On se couchait à la même heure qu'en semaine. Puis à la fin de semaine, on s'entendait avec la mère pour des heures de coucher. Tu sais, on s'était synchronisés. Fait que quand tu rencontres quelqu'un, tu veux te synchroniser à cette personne-là, bien entendu.
Ouais,
mais si pour elle, elle s'est entendue sur l'heure de coucher, je sais pas, moi, la semaine, c'est 9h15. Plutôt que moi, 8 heures pour mon plus jeune, puis 8h30 pour l'autre.
Uh-huh.
Ben, au début, je l'ai offert, puis j'ai vu qu'il n'y avait pas de réception de ce côté-là. Fait que j'ai dit à mes gars, Ben, il y en a un qui se couche à 8h, l'autre il se couche à 8h30. Ouais, mais là, Mégane, elle se couche à 9h15, elle a le droit. Ouais, ben Mégane, c'est Mégane, toi, c'est toi.
Moi, non, c'est ça. À un moment donné, tu n'as pas le choix de mettre la limite. Là. On est dans notre maison présentement, fait que c'est comme ça qu'on agit. Parce que sinon, c'est la manipulation puis la négociation qui n'en finit plus, tu sais. Fait que je pense que pour donner quelques trucs aux parents, du moins, faire équipe, hein, tu sais, on se dit tout le temps, bon, on va appuyer l'autre. Ça ne veut pas nécessairement dire d'avoir les mêmes techniques parentales,
ouais.
Je pense, mais c'est de se mettre en accord sur c'est quoi les valeurs qu'on veut inculquer à notre enfant.
Prendre le temps de s'en jaser au lieu de prendre des décisions.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, de mettre vraiment les règles puis les valeurs fondamentales de votre famille sur papier puis de les afficher au mur. Nous autres, on avait vraiment là, les 5 règles que tu pouvais pas dépasser, comme le respect, ne pas prendre de la drogue, non. Le respect, l'entraide, l'empathie,
le
il y en netté, avait 5 comme ça. Exactement. Et on se fiait beaucoup là-dessus pour intervenir. Puis s'il y avait des petites divergences non fondamentales, du genre, je sais pas moi, est-ce que Maude Sophie peut manger les mousses de son nombril? T'sais, elle va pas mourir, là. Ça, c'est correct, des fois, de pas être en total accord avec l'autre. Il faut se laisser une chance, tu sais. Sinon, ben, les discussions parentales régulières sont nécessaires, là, je vous le jure. Si vous accumulez de la frustration,
okay? Ça finit plus.
C'est les moments où on s'assoit puis on discute. Bon, du genre, Rodrigue a rentré 2 Legos dans son pétu cette semaine. On fait quoi avec ça? On en parle, on discute, on trouve un plan d'intervention, etc. Puis j'ai envie de dire, pour ceux que c'est vraiment difficile, là, pensez à la médiation, OK? Nous, les conseillers en sexologie, les sexologues, les thérapeutes, les psychologues, on est là pour aider là-dedans parce qu'on agit un peu comme un médiateur. T'sais, on en parlait tantôt, comment amener les deux à faire un compromis, mais c'est la même chose pour la famille. Tu sais, veux, veux pas, quand on apprend à communiquer les deux pour notre vie sexuelle, c'est la même chose pour les techniques de parentalité. Fait que d'aller voir quelqu'un qui est comme un middle ground entre les deux puis qui va vous dire, OK, ben c'est comme ça que vous devriez intervenir, si c'est telle valeur que vous voulez inculquer, ben je pense que c'est important de se faire aider parce que...
SOS Nancy,
connaissez-vous, vous autres, un manuel parfait sur comment devenir parent? Ça n'existe pas.
Tu y vas à tâton, puis tu essaies le plus possible de faire le moins d'erreurs possible puis d'apprendre de ces erreurs-là pour ne pas les refaire.
Ouais, puis de savoir aussi, tu sais, c'est quoi les forces puis les faiblesses de chacun. Tu sais, comme moi, par exemple, j'étais bonne pour faire de la cuisine, j'étais bonne pour organiser les vacances, alors que lui, il aurait pacté 2 bières, puis 2 bières, puis une couverture, puis ça aurait été correct pour une semaine, tu sais. Tout ce qui est ça, c'était de la planification, c'était de mon ressort à moi. Puis on va en parler tantôt de la charge mentale, là, parce que ça, c'est quelque chose qui est une grosse affaire, là. La charge mentale, tout ce qui est invisible puis qui trotte dans ta tête. Liste d'épicerie, organisation de vacances, qu'est-ce qu'il faut acheter pour la maison, ça prenait une vis pour la poignée de l'armoire. Toutes ces affaires-là font qu'à un moment donné, c'est trop dans ta tête.
C'est tellement banal, mais quand ça s'accumule, ça ne le devient plus. Là.
Effectivement. Fait que pour ce qui est des enfants, c'est de connaître c'est quoi les spécialités de mon conjoint. Qui est-ce qui est moins susceptible de commettre un meurtre? T'sais? Est-ce qu'à un moment donné, tu es rendu là, tu as juste envie de les étrangler? Donc, c'est qui va être le plus calme entre les deux puis qui va intervenir dans ce type de relation-là? De problématiques là, je pense que c'est ce qui est important. Puis sinon, j'en ai déjà parlé, mais au sujet de la sexualité, soyez donc démonstratif un peu devant votre enfant. Bon, sexuel, je veux pas dire de faire
l'amour.
Mais je veux dire
démontrer à nos enfants qu'on s'aime.
Exactement. Ouais. N'ayez pas peur d'embrasser votre conjoint ou votre conjointe. N'ayez pas peur de la toucher de manière respectueuse ou d'avoir des attentions les unes avec les autres. Je pense que ça c'est important.
Mademoiselle V, on a passé au travers de 2 irritants de base.
On a manqué de temps.
Quand on est en couple, on n'a pas manqué de temps, c'est juste qu'on jasait tellement.
Ben, dormez ça la semaine prochaine.
C'est bon signe.
On va faire une partie 1, partie 2.
Exactement.
Ouais, on en a 2 autres pour la semaine prochaine.
Pour les gens qui ont ce type de problématique-là, qui accumulent les fameux irritants en couple, qui voudraient régler justement cette partie-là de leur relation de couple, peuvent communiquer avec toi. De quelle façon?
Vous allez au www.mademoisellev.com. MLLEV.com. Vous allez tomber sur mon site web. Puis, il y a aussi toutes les pages, réseaux sociaux. Des fois, on peut avoir besoin de consulter, mais des fois aussi, on peut juste avoir besoin de la bonne information. Puis c'est ce que je publie sur les réseaux.
Oui, puis peut-être beaucoup les gens, je regarde un commentaire qui vient de rentrer. Salut, ça fait 23 ans que je suis avec mon mari. Je viens de comprendre pourquoi les papillons partent, mais depuis quelques années, 1 à 3 ans, la sexualité est difficile à revoir suite à des obstacles familiales. ainsi que des douleurs au dos. Ah. Et nous ne savons plus vraiment comment retrouver notre intimité en sachant que nous nous aimions faire l'amour. Nous nous aimons encore très fort. Donc, merci du conseil, Mademoiselle V.
Ça fait plaisir.
Ben oui.
Il faut s'aimer.
Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Oui. Audrey, je te souhaite de passer une belle fin de journée. On t'écoute tantôt avec Véro et Max.
Je bouge pas.
Pascal CV s'en vient dans les prochaines minutes. Et oui, Mademoiselle V sera avec nous la semaine prochaine, vendredi. 11h22, on se laisse avec Jill Scott Woodstock sur Boulevard, puis on revient dans quelques secondes.
Salut!
Je sais plus où on s'en va quand je check les nouvelles. 2 minutes.